Les voyages forment la jeunesse, mais aussi la pensée. C'est un carnet de route intellectuel que nous propose aujourd'hui Felwine Sarr dans La saveur des derniers mètres qui paraît chez Philippe Ray. L'économiste sénégalais revient sur les paysages et les visages, les rencontres et les lieux qui l'ont marqué. Conakry, Istanbul, Kampala, Lisbonne, a commencé aussi par son Sénégal natal jusqu'à Port-au-Prince où il a croisé devinez qui ? Le romancier Lionel Trouillot, notre premier invité. Felwine Sarr est, avec Bénédicte Savoie, l'auteur du rapport de 2018 sur la restitution du patrimoine culturel africain, des œuvres d'art présentes dans les collections publiques françaises. Il est aussi le cofondateur des Ateliers de la Pensée de Dakar, avec Achille Membe, professeur aujourd'hui à l'Université de Duke, en Caroline du Nord. Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages précédemment, dont Afrotopia et Habiter le monde, en direct de Dakar. Bonjour Felwine Sarr.
Bonjour Olivia.
Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Lionel Trouillot, le romancier, nous disait à l'instant que vous aviez une passion commune pour les arts martiaux, que c'était un secret, mais là il a bien vendu la mèche. Mais pas seulement, hein, pourrait-on dire quand même, Felwine Sarr, vous croyez tous les deux à la force des imaginaires, vous croyez tous les deux que la beauté des mots et des images peut sauver. Quel est votre souvenir de cette rencontre avec Lionel Trouillot et les écrivains haïtiens ?
En fait, j'ai rencontré d'abord Lionel Trouillot en dehors d'Haïti. C'était à l'occasion, je pense, d'un festival littéraire qui était organisé au Sénégal. Ensuite, je l'ai revu plusieurs fois et je l'ai revu aussi en Haïti. Et ce que j'apprécie beaucoup chez ces écrivains haïtiens-là, c'est que, en dépit de tout, malgré tout, malgré un dessin qui semble difficile, donc fait d'un ensemble de dystopies, je trouve qu'ils font face à leur réel avec les armes de la dignité et de la poésie. Donc que ce soit Franck Etienne, Rodney Saint-Éloi, Daniel Laferrière, Mackenzie Orcel, Haïti est une petite île qui a une profusion extraordinaire en termes de créativité, littérature, musique et peinture. Et on se demande comment se fait-il que sur ce petit bout de terre, il y ait tant de créativité et tant d'imaginaire produit à une si grande échelle, quoi, et qui vient d'un lieu qui me semble être un lieu explosif, mais qui, en dépit de tout, continue à produire du beau. Et les écrivains haïtiens ont ça, quoi. Ils font face à leur destin, bien sûr, de manière, je dirais, objective, mais ils n'ont pas renoncé à produire des imaginaires qu'ils partagent avec le monde.
Alors Franck Etienne, il est présent aussi hein, dans ce livre, le poète, dramaturge, chanteur haïtien de 84 ans aujourd'hui. C'est le génie, hein, comme vous l'appelez, le prophète. Et vous racontez une soirée à Montréal où vous êtes avec d'autres écrivains, penseurs du monde entier, à l'occasion du Salon du Livre de Québec. Et là, soudain, Franck Etienne prend la parole. Il la prend et il ne la lâche plus. Il s'embarque dans un conte fantastique, écrivez-vous, sur Haïti. Depuis ses origines, qu'il compare à un astre éteint dégageant une énergie forte mais nuisible, comme ces trous noirs qui aspirent tout autour d'eux, un vortex qui accélère la chute vers l'abîme, plus on s'approche de son fond. Voilà, Franck Etienne, il va totalement détourner la soirée à son profit et raconter vraiment l'histoire de l'humanité avec un talent dingue à travers le vaisseau haïtien, dites-vous. Tout le monde, après ça, pourra recommencer à discuter, mais il est vraiment la voix forte d'Haïti. On l'écoute.
Haïti n'aura son salut qu'à travers la créativité plurielle, la peinture, la sculpture, la danse, la musique, la littérature, les contes, les nouvelles. Et Haïti pourrait devenir la République des arts, parce qu'il y a tellement de créateurs chez nous. Et je disais tout à l'heure, si on faisait cet inventaire, Haïti pourrait bien, compte tenu de l'exiguïté de son territoire, c'est 28 000 km² à peu près. Haïti pourrait bien être parmi les top 10, comme on dit. Et peut-être, pourquoi pas, parmi les trois plus grandes productrices d'œuvres d'art. Et celui-là qui l'aurait fait, que ce soit un président ou n'importe qui, il serait devenu le Périclès des temps modernes. Et Haïti pourrait même être une terre de référence pour pas mal d'autres pays dans un contexte où il y a un effondrement général, parce qu'on a cessé de croire à la culture, on a cessé de croire aux grandes vertus de l'esprit et à l'énergie spirituelle qui est le seul carburant qui fait marcher l'âme humaine. Et là, nous sommes en panne d'imaginaire. Et c'est pas seulement Haïti qui est menacé, c'est toute la planète qui est menacée.
Vous lui donnez raison à Franck Etienne, Phil Winsart. Sommes-nous en panne d'imaginaire, en panne de culture? On ne lui accorde plus l'importance, la place qu'elle devrait avoir aujourd'hui?
Oui, je lui donne absolument raison. Et je trouve cette idée très belle de considérer qu'en fait, la ligne ultime et la finalité ultime est la créativité. Et qu'en fin de compte, l'aventure humaine, elle pourrait se lire à ceci, à dans quelle mesure avons-nous été capables de créer, donc d'apporter du neuf, de produire un surcroît d'humanité. Et que bien évidemment, il y a des critères objectifs, économiques, qui semblent être la boussole de notre monde, mais peut-être que dire que l'activité générique des humains, c'est de créer, c'est d'élargir les horizons, me semble être ici un très bel horizon. Et ce que ça repose comme problématique, c'est la problématique juste de savoir quelle est finalement la finalité. Une fois que l'on a répondu aux besoins dits biologiques, aux conditions d'existence, quels sont les sens ultimes que nous donnons au temps qui nous est imparti? Et je trouve que là, la littérature, les arts, la production d'imaginaire et de sens, ben, donc demeurent de formidables boussoles et demeurent de formidables projets pour l'humanité des uns et des autres. Et actuellement, ben, on est en vraie crise d'imagination et d'imaginaire. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à réinventer, à penser, à repenser, à réimaginer des modalités de rapport au monde qui ne sont pas celles qui sont les nôtres. On n'arrive pas à déboucher les horizons. Et Charles disait de ce point de vue que le voyage était important puisqu'il repoussait les limites trop vite atteintes de l'imagination. Mais il y a ici quelque chose qui a trait à un déficit d'imaginaire et d'imagination. Et c'est là où les écrivains et les poètes sont absolument importants.
Et oui, et justement, Phil Winsart, ce carnet de route que vous publiez aujourd'hui chez Philippe Ray, La saveur des derniers maîtres, c'est vraiment l'imaginaire en voyage, ou d'ailleurs le voyage des imaginaires, hein, parce que c'est vraiment un jeu d'aller-retour que vous nous racontez dans ces lignes. Et on le voit aussi avec vous qu'il n'y a pas de paysage vierge. Port-au-Prince, par exemple, quand vous y allez, est déjà chargé de toute la poésie, même sombre, que vous avez trouvé, vous, dans les livres de ces auteurs haïtiens qui vous sont chers et que vous avez pu croiser, rencontrer par la suite. Et on voit aussi que des personnalités, des figures comme Franck Etienne, elles voyagent à travers leurs textes, hein, qu'il peut aussi devenir le père spirituel de toute une génération, bien au-delà des frontières d'Haïti, au-delà aussi de l'océan Atlantique qui sépare son île du continent africain. Vous écrivez, Phil Winsart, la trouée est toujours d'imaginer. Il est possible de, trois petits points. Ça, c'est un état d'esprit, le vôtre, quelque chose qui relèverait de l'utopie, de se dire que il est toujours possible de. C'est comme ça que vous avancez?
Oui, parce qu'en fait, la réalité sous laquelle nous agitons n'est qu'une occurrence d'un réel beaucoup plus vaste. Et souvent, hélas, nous limitons nos possibilités à la réalité présente. Alors que le présent est juste une occurrence, une possibilité, et que le réel recèle en lui, quoi, d'énormes potentialités. C'est ce que l'utopie nous dit. L'utopie nous dit, ben, on peut féconder le réel, on peut faire en sorte qu'il y ait un surcroît de réel. Et le premier lieu d'où ce surcroît de réel apparaît, c'est bien évidemment le lieu de l'imagination. C'est cette idée qui consiste à dire, je ne me contente pas de ce qui est, ben, ce qui est aurait pu ne pas être, ou ce qui est n'est pas l'expression, je dirais, totale de toute l'immensité de ce qui peut être. Donc le jeu entre les possibilités et l'existence, c'est toujours un espace de travail. Donc ceux qui rêvent, ceux qui imaginent, ceux qui ont des projets, ceux qui veulent élargir les horizons, ceux qui veulent faire avancer les choses, sont toujours entre ces lieux-là, ou ces lieux tangents de la réalité et des potentialités de la réalité. Et l'espace de l'imagination est là, et cette imagination-là, elle est féconde parce qu'elle mène à l'action. Elle mène à l'action, elle mène à la production de lieux autres qui sont en potentialité, mais qui attendent d'être fécondés par nos élans, qui attendent d'être fécondés par notre ardeur. Mais le premier travail, donc l'action la plus fine, est celle d'imaginer qu'il est possible de... Des gens traversent la mer avec des branchages, franchissent la mer pour la première fois, ce qu'ils ont imaginé qu'ils étaient en mesure de franchir la mer. Avant de confectionner des bateaux, des caravelles, ils se sont dit, tiens, l'autre rive est à la portée de nos de notre action. Donc on peut y arriver. Et c'est ça en fait l'une des grandes forces, c'est d'imaginer qu'il est possible de. Et le voyage, le voyage est dans cette même dynamique là. Les premiers explorateurs ou voyageurs ou les gens qui ont exploré le monde et qui en ont goûté la première saveur ont imaginé qu'il y avait des terres au-delà des mers. Ont imaginé qu'ils pouvaient y accéder et se sont mis en route avec la foi et la force de cette imagination là.
Mais même immobile, Fel Winsar, on peut mettre la pensée en mouvement. C'est ce que vous faites finalement aussi dans ces ateliers de la pensée à Dakar que vous avez co-créé, co-fondé avec l'historien Achille Mbembe pour repenser les devenirs africains. C'est un travail nécessaire aujourd'hui ?
Absolument nécessaire, parce que l'une des difficultés que nous rencontrons sur le continent, ce n'est pas tant les difficultés, je dirais, objectives, techniques, institutionnelles et politiques, c'est le récit sur le futur. C'est le futur qui semble fermé, avec une prédominance de récits qui confinent le continent dans ses heures sombres, dans ses journées sombres, avec ce que j'appellerais une téléologie inversée, un continent en retard, qui ne serait pas à la hauteur du monde. Et le problème, c'est que si la jeunesse africaine croit en ces récits, où est-ce qu'elle va trouver les ressources nécessaires pour faire face à un destin qui peut sembler fort clos, alors qu'il n'est pas fort clos. Je veux dire, il est juste la résultante d'une histoire, de dynamique plurielle. Et c'est absolument important de reprendre le chantier qui consiste à dire que les horizons sont ouverts, les futurs sont possibles, et qu'il faut construire des futurs souhaitables, il faut construire des rêves collectifs et les faire advenir. Et ces rêves collectifs-là, ces planètes ou ces univers que nous souhaitons atteindre, nous pouvons les faire advenir, à condition de les penser, de les imaginer, et de travailler pour les faire advenir. Donc ce travail que j'appellerais fondamental et préalable de rouvrir les futurs est absolument important pour toute une jeunesse africaine qui, pour une certaine frange, estime que son salut est en dehors du continent et qui a une perte d'espoir et qui ne croit plus aux possibilités du continent alors qu'elles sont réelles, elles sont immenses, elles sont là. En dépit des difficultés que le continent peut avoir ça et là, son potentiel est absolument incroyable. Mais faudrait-il déjà que les Africains y croient eux-mêmes, qu'ils croient que sur ces terres-là, ils peuvent faire fleurir les mondes qu'ils souhaitent. Et c'est là où le travail va être de la pensée, d'en faire des ateliers de la pensée, reprendre en charge nos problématiques, y réfléchir, esquisser des solutions, des voies, mettre les esprits en synergie, est absolument important pour reprendre la dynamique, de se réapproprier son présent et son futur, et de ne pas laisser ses rêves être comptés par d'autres,
Voilà, rouvrir les possibles, décloisonner les mentalités et surtout les imaginaires. C'est donc l'objectif que vous vous êtes fixé tous les deux avec les ateliers de la pensée de Dakar lancés il y a 4 ans. On l'entend, la question des frontières, puisqu'on parle de voyage et que ce livre, La saveur des derniers mètres, est un éloge du voyage. La question des frontières, elle se pose aussi pour les idées. Il y a des frontières mentales parfois plus dures, peut-être à enjamber que les frontières géographiques. Voyager, à vous lire, Fel Winsar, c'est aussi une manière d'habiter le monde. Et habiter le monde, c'est être libre de se déplacer. Voilà ce que nous dit la philosophe ivoirienne Tanela Boni.
Y aurait-il depuis toujours des peuples et des individus qui auraient droit à l'aventure, suivre leur désir de se déplacer en bravant toutes sortes d'obstacles et d'autres qui n'en auraient pas le droit? Nous sommes tous des migrants. Et tout migrant a des rêves et des désirs. Certes, les lois doivent être respectées et les passages aux frontières autorisés. On ne part pas comme ça à l'aventure, dit-on, comme ça, sur un coup de tête ou par pur plaisir. Mais qui donc part aujourd'hui par pur plaisir sur les routes inhospitalières de nulle part ? Dans certains pays où le mal-être des individus est palpable, chacun pourrait habiter quelque part. Il y aurait moins de migration illégale. Je rêve, tandis que l'on continue de mesurer le seuil de pauvreté dans le monde. De nombreux pays africains vivent en dessous de ce seuil. Tout compte fait, est-ce que je sais de quoi habiter est le nom ?
Voilà, c'était Tanela Boni il y a 1 an à l'occasion du festival Banquet d'été transformé, transfiguré à la grâce qui avait choisi des textes sur ce thème qui était celui de habiter le monde et non voyager. Mais ces deux mots se rejoignent, d'après vous aussi, Fel Winsar.
Oui, en fait, on oublie souvent que le peuplement du monde, qui est le nôtre, est le fait d'un voyage, quoi, le fait d'un voyage d'Homo sapiens, qui quitte le continent africain et qui va en Europe, qui va en Asie, et qui se dissémine. Et que ce qu'on appelle la migration, bah, est le sang qui irrigue la terre, et que c'est une donnée fondamentale des sociétés humaines. Et le préjudice que les Africains subissent, c'est d'être, comme le dit mon ami Achille, d'être enfermé du dehors et du dedans, c'est-à-dire des frontières internes qui ne facilitent pas la mobilité intra-africaine, et d'être les peuples les moins souhaités en dehors du continent. Alors que faire un usage du monde, donc goûter à la saveur du monde, faire l'expérience du monde, est un droit qui doit être fondamentalement réparti, c'est-à-dire que les humains habitent le monde, quoi. C'est leur lieu, c'est leur aire de battage naturel, je veux dire. Et la vraie question qui est la nôtre aujourd'hui, c'est comment on fait une communauté humaine. Et donc ça passe par la question du territoire, de la géographie et de la mobilité. Considérer la mobilité comme un droit fondamental, que les humains aient le droit donc de s'établir où ils veulent, de voyager, de faire l'expérience du monde, et qu'on ait tous la possibilité d'avoir un usage du monde, qui est l'usage de ceux qui ont le droit d'aller s'établir où ils veulent pour des raisons économiques ou des raisons de découverte ou de voyage, etc., etc. Et cette question du territoire, de l'ancrage au territoire, ce territoire est le mien à l'exclusion des autres, puisque j'y suis venu avant, puisque j'ai de l'ancestralité, puisque je m'y attache à l'exclusion de mon voisin ou de mon semblable, à mon avis, c'est un travail d'abord dans l'espace des imaginaires, de l'appartenance, qui fera en sorte qu'un jour nous ayons des lois et des règles qui nous fassent circuler, puisqu'on aura déconnecté l'appartenance à un territoire donné, à la citoyenneté, et puis qu'on aura produit d'autres imaginaires du rapport au territoire. Et ça, c'est un grand, grand chantier que nous devons entreprendre. Et dans ce que Tanyella Boni, j'entends plusieurs choses. J'entends le voyage par nécessité, donc elle l'indique de temps à autre. Ça semble être celui qui est le plus usité pour un certain nombre d'Africains. Il serait temps que ça ne soit pas le cas, quoi. Que les Africains puissent juste se dire, j'ai envie d'aller voir le Mexique, j'ai envie d'aller voir l'Amérique latine, j'ai envie d'aller voir l'Asie, m'enrichir des autres visages de l'expérience humaine, revenir, repartir, circuler, rester sur place, etc., etc., et que ce soit une donnée simple, naturelle et normale. Mais hélas, c'est un horizon pour lequel il faut encore que l'on travaille. Et c'est lié à l'idée que nous nous faisons de la communauté humaine, quoi. Je veux dire, fondamentalement, il n'y a pas d'étrangers, puisque nous habitons cette terre, quoi. Mais là, il y a un travail à faire dans les imaginaires, dans le langage, dans les représentations et dans le sentiment d'appartenance.
Le voyage, ce qui le distingue d'ailleurs de l'exil, c'est ça, hein, c'est aussi l'idée d'un départ, mais donc aussi d'un retour possible. Depuis que vous voyagez, Félouine Sarr, est-ce que vous regardez votre pays, le Sénégal, autrement quand vous y retournez?
Absolument, parce que, en fait, lorsqu'on est dans un lieu, on s'y habitue, on est contenu dans le lieu, il y a une sorte de métonymie, et au bout d'un certain temps, on ne voit plus fondamentalement le lieu dans lequel on est. Et quand on voyage et qu'on revient, on a un regard neuf sur le pays. L'œil pour voir a besoin de se détacher. Donc, un certain nombre de réalités auxquelles le regard était habitué, elles nous apparaissent à nouveau. Et c'est un moment très intéressant. Ce moment où le regard est à nouveau dessillé, où il y a une ouverture à la sensibilité des choses et des êtres, et où on se rend compte que, tiens, en partant et en venant, on se rend mieux compte de ce qui nous attache au pays, ce qui nous touche, à quoi on est sensible, ce qui nous a manqué, et ce que nous ne voyons plus, quoi. Et ces allers-retours entre Niodior et le reste du monde, entre les lieux d'ancrage et les lieux de désancrage, le fait de quitter un lieu qui est un lieu matrice pour soi, aller parcourir le monde, revenir dans ce lieu, consteller des poussières du monde, ça donne un regard que j'appellerais en biais, quoi. Donc on a un regard en biais sur la réalité, et c'est un regard intéressant. On a un regard à la fois du dedans et du dehors, et donc ça permet de voir le monde en relief. Et voir le monde en relief, c'est une chose absolument intéressante.
Vous venez d'évoquer à l'instant Niodior, et c'est vraiment cet endroit, le lieu matrice, comme vous le dites pour vous, là où vous êtes né il y a 48 ans, Félouine Sarr. C'est un lieu qui ponctue aussi le livre, ce point d'ancrage où vous semblez toujours revenir. Et vous ouvrez d'ailleurs avec des lignes que vous consacrez à cette île, que vous nous racontez, cette contemplation silencieuse de la majesté de la nature que vous pouvez faire là-bas, ces prières semi-silencieuses, la manière dont vivent les femmes et les hommes de cet endroit, Niodior. Comment en parler, comment nous donner, nous transmettre presque cette carte postale de là-bas, cette image qui vous marque le plus de cet endroit?
En fait, c'est une île qui se trouve dans l'Atlantique, à l'ouest du Sénégal, dans un chapelet d'îles qui s'appelle les îles du Saloum, comme pas loin de la frontière gambienne. Et des serres d'Ignominka, des pêcheurs y vivent depuis des millénaires. Les fouilles archéologiques nous indiquent que depuis l'an 1000, depuis 1000 après Jésus-Christ, il y a des humains qui y habitent. Et c'est des îles, c'est des îles comme toutes les îles, quoi. Donc il y a cette, je dirais, cette turgescence, cette monticule de terre qui est au cœur des flots, qui établit la vie coûte que coûte et vaille que vaille, parce que l'imaginaire des îliens, c'est ça, c'est d'abord affronter la nature, être en mesure d'établir la vie, de la rendre durable, dans des conditions qui ne sont pas les plus, on va dire, les îles sont belles, on aime bien l'imaginaire de la beauté des îles, mais on oublie que vivre dans une île, c'est un défi constant. Il faut être en mesure de trouver des ressources, d'y répondre, de sortir de l'île, de franchir la mer, de vivre dans un lieu qui est, dans le temps, avec la crise écologique qui est menacée, de disparition si on ne reboise pas la mangrove autour, mais un rapport, je dirais, quasi épidermique, substantiel avec la nature, avec l'environnement, et à ce rapport à l'environnement-là. Et ce que je trouve intéressant dans l'espace de la littérature, c'est que cette géographie physique peut devenir une géographie spirituelle et mentale. On peut la décrire, on peut l'habiter, on peut cultiver un imaginaire de ce lieu, et on peut le transmettre à travers des mots. Et ce que je raconte dans la saveur des derniers mètres, c'est ces différents moments de l'île, ces différentes réalités de l'île dont je fais l'expérience en y allant et en venant, et les gens qui y habitent, les relations familiales, les relations humaines, le rapport au monde, comment est-ce que le monde affecte l'île par le fait de la migration, des jeunes qui partent en Espagne et qui reviennent, etc., etc. Comment l'île est à la fois immuable et mouvante, et comment y revenir est toujours un moment où on réfléchit à la distance, au chemin parcouru, à qui on est en train de devenir, à comment le monde se décline et se dit en soi à travers le temps qui passe et à ce qui apparaît, ce qui change et ce qui reste tel quel, quoi. Et je trouve que ces allers-retours entre ces lieux et le reste du monde sont des moments aussi de méditation et de réflexion sur le chemin et le voyage qu'est la vie, qui fondamentalement un voyage entre des lieux totalement imprévisibles et inconnus, même si on reconnaît quelques-uns de ces sentiers. Mais j'insiste sur le fait que appartenir à une île, c'est devoir la quitter. C'est-à-dire que l'un des éléments essentiels des gens qui habitent dans une île, c'est qu'ils doivent quitter l'île. C'est que le monde ne se limite pas aux frontières de l'île et qu'il y a une nécessité du voyage. Ceux qui sont nés dans une île doivent sortir de l'île, quoi, et aller rencontrer le monde.
Mais c'est d'ailleurs le rêve de cette jeunesse, partir pour peut-être mieux revenir. Tous les jeunes du village veulent émigrer, souvent, vous le racontez aussi en Espagne, abandonner ce qu'était le travail de leurs parents, de leurs grands-parents, et se construire une vie autrement. Faye Windsor, vous êtes notre invitée jusqu'à 13h30, c'est-à-dire pour quelques minutes encore, à l'occasion de la parution de La saveur des derniers mètres chez Philippe Ray, un carnet de route, carnet de voyage intellectuel, plaisir de vous avoir pour quelques instants. Encore.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Nous devons nous préparer au pire.
Prepare for the worst.
Dans d'autres pays, nous avons vu comment le virus s'accélère réellement après un certain point de basculement. Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est donc de se préparer au pire.
Prepare for the worst.
Les hommes voyagent, les idées voyagent, mais les virus aussi. On entendait à l'instant les mots de l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancien ministre de la Santé et des Affaires étrangères d'Éthiopie, aujourd'hui directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Se préparer au pire, dit-il à l'adresse du continent africain. L'Afrique s'est tant et si bien préparée au pire, Faye Windsor, qu'elle s'en est mieux sortie que les autres.
Oui, elle s'en est mieux sortie que les autres parce que le virus est arrivé avec quelques mois de retard. Donc elle a eu le temps de voir ce qui se passait ailleurs. On le dit pas souvent, mais les pays africains ont pris des mesures drastiques au début. Je me rappelle que le virus est arrivé au Sénégal en mars, en même temps qu'aux États-Unis. Au même moment où Trump niait la virulence du virus et l'attribuait aux Chinois, le Sénégal fermait ses frontières, fermait ses écoles, ses universités et mettait quelques temps après un couvre-feu. Après, il y a eu beaucoup de tentatives d'explication, la jeunesse du continent, une habitude des virus, les vaccinations, des conditions épigénétique à découvrir plus tard. Mais ce que je retrouve intéressant, c'est qu'on ne met pas assez le point sur le fait que, ben, qu'il y a une expertise sur les maladies infectieuses, que des mesures drastiques ont été prises et des choix rationnels ont été faits dans la plupart des pays, quoi. Et ça pourrait expliquer pourquoi, ce n'est peut-être pas la seule raison, mais en tout cas, c'est une explication importante qui, souvent, elle passe au second plan. On va chercher des raisons qui ne créditent pas les Africains, bah justement, quoi, de leur prise en charge de ce réel-là. Et cette déclaration était intéressante. Au moment où il faisait la déclaration, bah, les pays africains ne dormaient pas, prenaient des mesures, mais il y avait une sorte d'imaginaire du déficit, du handicap et du manque qui était prépondérant. Et on prédisait au continent toutes les catastrophes, des hécatombes. Le secrétaire général de l'ONU a eu des propos semblables où ils étaient convaincus que ce serait en fait la fin du monde sur le continent, quoi, en dépit du réel. Et quelques mois après, quand ce n'était pas le cas, c'était intéressant de voir que la mauvaise augure demeurait. On continue à dire oui, pour l'instant, le continent n'y est pas encore, comme si ce n'était pas normal qu'il s'en sorte, et comme s'il fallait coûte que coûte que le réel africain démontre les imaginaires et les préjugés ou l'afro-pessimisme qui colle à la peau de l'Afrique de manière extrêmement, extrêmement forte, quoi. Et là, on se dit, tiens, les imaginaires négatifs sur le continent sont plus puissants que la réalité du continent. Même lorsque la réalité démontre l'inverse, le récit veut s'accrocher à l'image qu'il souhaite avoir du continent.
Voilà, et d'ailleurs, dans une tribune publiée dans Jeune Afrique, dont vous êtes l'un des signataires, Fell Winsar, il est raconté que la crise sanitaire peut être une opportunité historique pour les Africains de mobiliser leur intelligence, de rassembler leurs ressources endogènes, traditionnelles, diasporiques, scientifiques, nouvelles, digitales, leur créativité. Mais ça, vous l'avez fait, ça a été fait au Sénégal. Hein. Très tôt, les intellectuels, les experts, les penseurs, les chercheurs ont été aussi mobilisés, et notamment des économistes, hein, pour penser ce plan pour l'après, assez rapidement. Hein. 10 mois après, on en est où, justement ?
Je pense que le plan est en train d'être déroulé, mais ce qui était intéressant, c'est que déjà les médecins se sont réunis en une commission, ont fait un travail absolument remarquable de prise en charge de leurs problématiques. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que on était obligé de recourir aux ressources endogènes et locales. Et les gens n'ont pas attendu. Les designers ont fait des masques, les anthropologues se sont réunis, les économistes ont contribué avec le ministère à un plan de résilience économique, distribution de vivres, mesures fiscales, mesures destinées au secteur informel pour atténuer les effets de la crise, puisqu'il y a des effets économiques. La crise, de toute manière, elle affecte tout le monde, elle affecte l'économie globale, et l'économie globale est en récession, mais le continent l'est relativement moins que le reste du monde, parce qu'il était déjà en croissance, donc une croissance beaucoup plus importante que le reste du monde. Il est affecté, mais j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de mitigation des effets. Les effets ont pu être mitigés jusque-là. Maintenant, si la crise dure et perdure, bien évidemment, je veux dire, la problématique économique demeure et il faudra y faire face et répondre de manière adéquate. Mais ce que j'ai trouvé, moi, remarquable, c'est qu'il y a eu une mobilisation de toutes les ressources vives, en tout cas du Sénégal, du pays, autour de programmes, de task force pour apporter une réponse, chacun dans son domaine. Et je trouve que c'était une excellente chose et que la crise nous a donné l'opportunité de faire ça, chose que nous ne faisions pas avant. Les sociétés civiles, en tout cas la société civile, j'ai rarement vu une telle mobilisation pour apporter et contribuer au destin du pays. Et je me dis aussi que l'enseignement que nous devons tirer, c'est justement de nous dire, tiens, voici nos vulnérabilités, voici les vulnérabilités auxquelles nous devons faire face, et que fondamentalement, voici les choix que j'appelle structurels de société et de civilisation qu'il faut faire, quoi. Des choix liés à une économie qui nourrit le vivant, des choix liés à de la santé, à de l'éducation, des choix liés à notre rapport à l'écologie, et le fait de savoir que il y a des ressources qui sont sur place, sur lesquelles on peut compter lorsqu'il y a des difficultés.
La question du retour, Fell Winsar, elle se pose aussi depuis quelques années pour le patrimoine culturel africain. Vous en savez quelque chose puisque vous êtes avec Bénédicte Savoie, l'auteur d'un rapport à ce sujet. De quoi parle-t-on au fond? De rendre ces œuvres qui ont été spoliées, qui sont aujourd'hui dans des musées, dans des institutions muséales ou culturelles en France. Il s'agit notamment, la question se pose aussi pour la Belgique et d'autres pays, mais il s'agit de changer au-delà de tout ça le rapport à l'autre. Et vous racontez ces voyages que vous avez réalisés dans le cadre de la rédaction de ce rapport autour de la restitution des biens culturels et notamment le voyage que vous avez réalisé au Cameroun. À ce sujet, vous racontez que vous avez pu entrevoir là-bas, en lisant les paroles inscrites dans l'hymne national camerounais, une nouvelle fois, l'ampleur de l'œuvre de décolonialité qu'il faut entreprendre pour tous nos pays, à différents niveaux et à des degrés divers, l'impérieuse nécessité préalable à tout avenir de reconstruire le respect de soi-même. C'est un front qui qu'il faudra tenir ferme et en gagner toutes les batailles. Racontez-vous à ce sujet. Pourquoi cette entreprise de restitution est si importante aujourd'hui? Est-ce qu'elle tient dans ces quelques mots que vous avez écrits là-bas au Cameroun?
Oui, on est avec Bénédicte Savoie au Cameroun, dans l'Ouest, et on visite l'Ouest du pays, on visite des chefferies traditionnelles, on visite des maisons du patrimoine, des musées traditionnels, des musées modernes. Et on se rend compte que sur place, en fait, il y a des compétences pour accueillir les objets, il y a des compétences pour en prendre soin, il y a un rapport à l'objet. Il y a toute une culture patrimoniale qui existe et qui va à l'encontre des récits sur l'incapacité des musées africains à faire face à la gestion adéquate de ces objets-là. Et quand on va au musée de Yaoundé, on lit l'ancien hymne national qui a été changé quelques années plus tard, où il y a une phrase qui dit « Nous étions dans la barbarie et la sauvagerie, maintenant nous entrons dans l'ère de la civilisation ». Et je pense qu'il a fallu 10 ans pour que cette phrase soit changée. Et je me rends compte qu'en fait, que la vraie question, c'est bien sûr l'économie relationnelle de la relation, faire en sorte qu'il y ait un rééquilibrage de la relation et une nouvelle économie relationnelle entre les anciens colonisés et les anciennes métropoles, mais que c'est fondamentalement de reconstruire le respect de soi, de reconstruire l'estime de soi, de reconstruire des infrastructures psychiques qui ont été entamées par une œuvre pluricentenaire de dénigrement et de déshumanisation, et que le patrimoine joue un rôle important dans ce travail-là. Et que si le continent a envie de reprendre un nouvel élan, le sol à partir duquel il doit reprendre le nouvel élan doit être fait de plusieurs briques, et l'une de ces briques, c'est de reconstituer un rapport à son histoire, à son patrimoine. Et ces objets, une partie importante de ces objets qui se trouvent dans les musées occidentaux, qui font que les jeunes Africains ne peuvent pas connecter avec leur histoire matérielle, n'ont pas l'occasion de faire face à ces œuvres, de voir les œuvres de créativité des générations anciennes. Et ces œuvres qui ne sont pas que des œuvres d'art, qui sont des supports de spiritualité, qui sont des supports de savoir, qui sont des supports esthétiques, qui disent le continent, qui disent son histoire, qui disent sa créativité, et qui peuvent reféconder, et c'est ça qui est important, qui peuvent reféconder les imaginaires des jeunes Africains actuels et contemporains, et qui peuvent être un élément, une brique dans la reconstruction et la réinvention de soi. On a du mal à faire comprendre que c'est quelque chose de normal, en fait, que ce n'est pas une question, que c'est absolument normal que les nations africaines désirent récupérer une part importante de leur patrimoine, la mettre à disposition de leur société, de leur jeunesse. Ça n'empêchera pas ce patrimoine de circuler dans un espace de circulation, mais que c'est absolument juste, équitable de le faire.
Voilà. Travail, oui, c'est également un travail de réarmement spirituel, de stimulation, absolument, de la créativité. Absolument. Voilà ce que vous disiez à l'époque. Felwitzar, la saveur des derniers mètres chez Philippe Ray. On lit ce carnet de voyage avec une certaine nostalgie à l'heure où le virus circule plus vite que les hommes. C'est vrai que ces dernières années, on a aussi tous surconsommé du voyage et mal voyagé sans prendre le temps de s'arrêter, d'échanger. C'est une invitation, un éloge de voyage que vous avez rédigé là. Et vous le rappelez, parler, c'est déjà reconnaître l'autre. Mille merci, Felwitzar, d'avoir été avec nous. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez et Madeleine Martineux pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix, Henri Leblanc et Anouk Delfino pour La Grande Table culture. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Jean-Guy Linmège. Très belle après-midi à tous sur France Culture.